Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Les opposants au coup d'état militaire au Soudan restent déterminés. Nouvelle démonstration de force ce samedi. Au moins 2 manifestants ont été tués aujourd'hui par les forces de sécurité. La lutte contre la Covid-19, la relance économique, le réchauffement climatique, les sujets au menu du G20 qui a débuté ce samedi à Rome à la veille du coup d'envoi de la COP26. Plusieurs ONG ont récemment été déclarées illégales par le gouvernement israélien qui les considère comme des organisations terroristes, une mesure vivement dénoncée par l'ex-député européen et ancien directeur de l'Humanité, Patrick Lehiarik. Nous l'écouterons. La Ligue arabe exprime sa préoccupation face à la détérioration des relations entre le Liban et des États du Golfe, dont l'Arabie Saoudite. Une crise née après les critiques du ministre libanais de l'information contre la coalition militaire au Yémen. Ce sera ce lundi, le 67e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Algérie. Le président du Conseil de la Nation estime qu'il faut donner sa véritable dimension à cette page de l'histoire qui, souligne-t-il, s'est construite sur l'unité nationale. Regard dans votre journal sur le déclenchement de la guerre d'Algérie avec l'historien spécialiste de la période coloniale, Gilles Manceron. Il était l'une des légendes du football algérien. Mehdi Serba est mort. L'ancien gardien de but des Fenech était âgé de 68 ans. L'invité de Pluriel hier était Geoffrey Carvalino, conseiller régional d'Île-de-France, soutien de Valérie Pécresse, candidate à l'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle. Geoffrey Carvalino est notamment revenu sur le projet de Valérie Pécresse pour les jeunes et les habitants des quartiers populaires. Extrait dans votre édition. Les opposants au coup d'état militaire au Soudan restent déterminés. Nouvelle démonstration de force ce samedi. Un premier défilé est parti d'Umdurman, ville jumelle de Khartoum, alors que les forces de sécurité quadrillaient la capitale, bloquaient les ponts la reliant à ses banlieues et fouillaient passants et voitures. 2 manifestants au moins ont été tués par les forces de sécurité. Depuis lundi, ce sont 11 manifestants qui ont été tués, plus de 170 blessés par des balles réelles ou en caoutchouc et des grenades lacrymogènes des forces de sécurité, des chiffres fournis par des médecins qui indiquent que le bilan pourrait être plus élevé. Plusieurs organisations non gouvernementales ont récemment été déclarées illégales par le gouvernement israélien, le gouvernement qui les considère comme des organisations terroristes. Pour l'ancien député européen et ancien directeur de l'Humanité, Patrick Lehiarik, le gouvernement israélien est au moins aussi dur que le précédent gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. Patrick Lehiarik.
Il est au moins aussi dur que le précédent pouvoir. La décision sur les ONG sous prétexte qu'ils seraient terroristes en témoigne. La décision concernant le mandat d'expulsion de Salah Hamouri en témoigne également. Et la poursuite de la colonisation. Il se construit tous les jours des maisons et des maisons. Et je crois qu'il y a un programme de un peu plus de 1300 maisons en Cisjordanie en ce moment. Ce qui a valu d'ailleurs une protestation de l'administration américaine, voire de Joe Biden lui-même. Donc oui, il est malheureusement aussi dur que le précédent, peut-être même plus dur parce qu'il profite de la faiblesse en ce moment de l'autorité palestinienne.
Avec une situation palestinienne dont on ne parle plus, qui ne fait plus la une de l'actualité.
Oui, c'est vrai, parce que ça a été effacé par une multitude d'autres questions dans cette région, au Proche et au Moyen-Orient, un certain nombre de guerres, une situation internationale où les tensions, notamment la rivalité des États-Unis face à la Chine, font que ce qui se passe en Afrique aussi, le Mali, etc., font que on a délaissé la question de l'État palestinien. Je crois qu'il faut y revenir parce que il y a tous les jours là-bas des gens qui souffrent durement, des gens à qui on vole, on détruit la maison, d'autres à qui on vole leur eau, comme dans la vallée du Jourdain. Il faudrait que ça revienne à l'ordre du jour des agendas militants.
L'ex-député européen et ex-directeur de l'Humanité, Patrick Le Yarrick, répondait à Loïc Barrière. La lutte contre la Covid-19, la relance économique, le réchauffement climatique, les sujets au menu du G20 qui a débuté ce samedi à Rome. Le G20 devrait en effet entériner au plus haut niveau politique la taxation minimale mondiale à 15% sur les multinationales. Un sommet à la veille du coup d'envoi de la COP26 en Écosse. La France entend réaffirmer à Glasgow qu'elle est un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique et garante de l'esprit de l'accord de Paris. La Ligue arabe exprime sa préoccupation face à la détérioration des relations entre le Liban et des États du Golfe, dont l'Arabie saoudite. Le gouvernement libanais a mis en place une cellule de crise suite aux tensions diplomatiques avec l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe. Riyad a rappelé son ambassadeur au Liban et demandé le départ du royaume de l'ambassadeur libanais. Une mesure après les critiques du ministre libanais de l'information contre la coalition militaire au Yémen. L'Arabie saoudite a également, selon un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères, décidaient d'arrêter toutes les importations libanaises. Bahreïn et le Koweït ont également demandé à leur ambassadeur du Liban de quitter le pays. Dans une émission télévisée datant du 5 août et diffusée lundi, l'actuel ministre libanais de l'information, Georges Kordaï, qui n'était à l'époque pas encore membre du gouvernement, avait qualifié d'absurde la guerre menée depuis 2015 par la coalition militaire et estimé qu'il était temps qu'elle s'arrête. Il a souligné avoir tenu ses propos reflétant son opinion personnelle avant sa nomination. Dans un communiqué, le Premier ministre libanais Najib Mikati a affirmé que les déclarations de Georges Kordaï ne reflètent en aucun cas la position du gouvernement qui, souligne-t-il, est soucieux de maintenir les meilleures relations avec Riyad. Des missiles sol-sol tirés par Israël ont visé ce samedi des positions dans les environs de Damas. Il y a 2 blessés parmi les soldats syriens. Le 60e anniversaire, lundi prochain, du déclenchement de la guerre d'Algérie, le président du Conseil de la Nation, Salah Goujli, l'a appelé à Alger à la nécessité de revoir et d'analyser l'appel du 1er novembre 1954 afin, selon ses mots, de lui donner sa véritable dimension qui s'est construite sur l'unité nationale. Regard sur le déclenchement de la guerre d'Algérie avec l'historien spécialiste de la période coloniale, Gilles Manseron.
Le soulèvement du 1er novembre 1954 a été préparé par de nombreuses manifestations et mouvements de refus de la colonisation française qui s'est exercée donc depuis la conquête de l'Algérie en 1830 et qui a été ponctuée par un certain nombre de révoltes. Hein. Alors on connaît la résistance menée par l'émir Abdelkader jusqu'en 1948 et puis il y a eu d'autres phases, notamment postérieures, hein, dans la région de la Kabylie, des révoltes, des mouvements armées qui ont été réprimées, et le mouvement national moderne, si je puis dire, qui s'est constitué d'abord en France autour de l'étoile nord-africaine hein, dans les années 1920, a ensuite eu s'est implanté en Algérie à partir de la Seconde Guerre mondiale, dirons-nous en gros, et a connu des phases de révolte également. Le 8 mai 45, qui était une manifestation patriotique à cette île Kelma Karata, a été réprimée très très violemment. Et le 1er novembre 54 a été l'organisation d'un soulèvement qui tenait compte de ce sentiment national qui avait persisté malgré la colonisation française.
Et quels sont les groupes qui ont organisé ce soulèvement ?
Il s'agissait de jeunes militants du mouvement national, qui s'appelait à ce moment-là le MTLD, Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, qui était la continuation de l'étoile nord-africaine, qui était devenue PPA, Parti du Peuple Algérien, puis ensuite MTLD. Alors, les fondateurs du FLN en 54 sont issus de ce mouvement, et sont plutôt de la jeune génération, puisque les cadres qui étaient dans l'entourage, en quelque sorte, de Messali Hadj, hésitait à donner une sorte de feu vert à l'insurrection, un mouvement d'insurrection et de lutte armée. C'était le cas de Messali Hadj, hein, qui n'avait pas pris de décision dans ce sens, Et par ailleurs, les cadres les plus âgés de ce mouvement national algérien étaient souvent divisés par des oppositions de tendance. On parlait des centralistes, des messalistes. Il y avait une opposition interne qui ont voulu dépasser ces jeunes activistes, enfin partisans de l'action directe, si je puis dire, et tourner vers la lutte armée, qui ont fondé le FLN et lancé le 1er novembre 1954, donc des attentats un peu dans toute l'Algérie.
Et comment le gouvernement français a-t-il réagi face à ces événements du 1er novembre 1954 ?
Alors, il a réagi dans le déni du sentiment national algérien, en affirmant l'Algérie, c'est la France, comme étant une vérité intangible, quoi. Et alors que, bien entendu, il y avait une histoire de conquête, une histoire de domination qui était longue, et que les Algériens ressentaient à des degrés divers depuis 1830. Donc, le gouvernement français a qualifié de hors-la-loi, de bandits, ces gens qui avaient recouru à des attentats. Et alors que la plupart n'avaient pas fait de victimes, des attentats qui visaient des objectifs militaires, des casernes, des points de police, des postes de police, la plupart n'ont pas fait de victimes. Mais il y a eu un épisode qui a, je dirais, mal tourné dans l'Aurès, près de Arris, où un autocar a été arrêté, les passagers contrôlés, etc. Et là, il y avait un couple d'instituteurs dont la jeune femme a été tuée au cours d'une fusillade qui n'était pas, le résultat d'ordre de s'attaquer à des instituteurs venus de France, mais qui est intervenu dans un épisode complexe qui a été mis en exergue par la propagande française. Donc, cette affaire du couple Monroe, la jeune femme ayant été tuée, le mari blessé, ayant été érigée en exemple de ce que ce sont vraiment des assassins qui ont organisé le 1er novembre et que le FLN, ce sont des bandits.
L'historien spécialiste de la période coloniale, Gilles Manceron. Il était l'une des figures du football en Algérie. Mehdi Serba est mort. L'ancien gardien de but des Fenech était âgé de 68 ans. Mehdi Serba a fait partie de l'équipe tombeuse de l'Allemagne de l'Ouest au Mondial 1982. Il a entamé sa carrière en 1969 à l'USM Alger avant de rejoindre la JS Kabylie en 1972 pour s'engager ensuite avec le RC Kouba. La vaccination contre la Covid-19 en France a franchi un nouveau cap. La barre des 50 millions de schémas vaccinaux complets est atteinte. Une annonce de Santé publique France. Cela représente 74,2% de la population française totale. Cette nuit, à 3h, il sera 2h. Le passage à l'heure d'hiver, soit une heure de sommeil en plus cette nuit, mais une heure de soleil en moins dès demain soir. L'invité de Pluriel hier était Geoffrey Carvalino, conseiller régional d'Île-de-France, élu de la ville de Pantin et soutien de Valérie Pécresse, candidate à l'investiture de la droite pour l'élection présidentielle. Elle est hostile à l'idée d'un RSA jeune. Geoffroy Carvalino explique le projet de Valérie Pécresse pour les jeunes et les habitants des quartiers populaires. Extrait.
Elle est contre le RSA jeune parce qu'en réalité, ça donne pas de l'espoir à notre jeunesse. C'est plutôt une on vous donne une allocation, tiens, tu peux rester chez toi, pas de problème, t'as 18 ans, on te donne directement une petite allocation de 500 à 600 euros par mois, alors que c'est pas du tout le message envoyé. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que notre jeunesse, elle aille le plus loin possible dans les études supérieures, mais si ces jeunes doivent aller sur le marché du travail ou qu'ils sont en décrochage scolaire ou qu'il faut qu'ils trouvent une formation pour leur remettre dans le droit chemin, eh ben, il faut les inciter à aller vers l'emploi. Et pour ça, il faut aller vers des formations concrètes rémunérées. Et c'est pour ça que, au niveau de la région de France, Valérie Pécresse a mis le revenu jeune actif, où en gros un jeune a 6 mois en formation, il est rémunéré quasiment 600 à 700 euros par mois. Et ça, c'est un véritable message d'espoir. C'est-à-dire qu'on lui donne une formation rémunérée, il va apprendre un travail, il va se réinséré, il va véritablement se trouver en lui une vocation. Et c'est ça qu'il faut, c'est quand on amène les jeunes vers l'emploi, il faut surtout pas les amener vers l'assistanat. Et c'est le pire message qu'on puisse envoyer à la jeunesse. Il faut justement que la jeunesse elle a un message d'espoir, d'aller vers l'avant, de fonder un foyer, de trouver un appartement, d'avoir un emploi digne, de rendre fiers les parents. Et moi, je le sais parce qu'en Seine-Saint-Denis, c'est une préoccupation de beaucoup de jeunes, de rendre fiers les parents. Et les parents aussi sont contents de voir leur enfant en formation avec à la fin du mois un salaire. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment que le mérite soit au cœur du projet français. Et c'est sûrement pas la solution que de mettre une allocation qui enverrait les jeunes dans le mur. Voilà, ça enverrait les jeunes complètement dans le mur. Ce qu'il faut au contraire, c'est trouver des formations rémunérées qui les emmènent vers un emploi pérenne et ce qui va leur aider et faire en sorte qu'ils construisent leur vie dignement.
Alors vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, Geoffrey Carvalino. Quelle présidente sera Valérie Pécresse pour les habitants des quartiers populaires qui se plaignent de subir des inégalités, déserts médicaux, manque de logements, manque de services publics, des écoles où l'on manque parfois d'enseignants?
Bah écoutez, moi je pense que Valérie Pécresse, ce sera une Chirac et une Borloo fois 100. Je vous le dis vraiment parce que je la connais, c'est une femme de cœur, c'est une femme de proximité, et je vais vous donner un exemple. Avant, la région Île-de-France, elle était dans le 7e arrondissement, dans les beaux quartiers. Eh bien, Valérie Pécresse, elle a installé le siège de la région Île-de-France en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, contre l'avis de tous les élus de gauche, pratiquement, de la région. Et bien, elle est venue en Seine-Saint-Denis, symboliquement. Et depuis le siège de la région en Seine-Saint-Denis, elle change le quotidien des quartiers. Ça passe par plus de sécurité, ça passe par plus d'éducation. Quand elle donne à chaque élève, quel qu'il soit, un ordinateur portable pour ses études, qu'elle fait la rénovation urbaine, qu'elle aide les associations locales, qu'elle aide les maires à désenclaver des quartiers, c'est ça ce que sera Valérie Pécresse pour la France. Et je pense que c'est la seule aussi aujourd'hui qui a un programme pour les quartiers populaires et un message d'espoir pour toutes celles et tous ceux qui vivent dans des cités HLM avec un message d'émancipation.
Geoffrey Carvalino, conseiller régional d'Île-de-France, élu de la ville de Pantin, soutien de Valérie Pécresse, invité de Pluriel hier soir, émission rediffusée ce dimanche à 17h, émission présentée par Loïc Barrière, émission que vous pouvez retrouver sur votre site internet radioorient.com. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 23h et ce dimanche à 19h est Didier Nebot, auteur de La Reine des Sables, l'extraordinaire épopée de la Caïna aux éditions Éric Bonnier. Une émission préparée, présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.